And Alain, first of all, could you give us a short introduction of the prehistory of radio?
Oui, bien, la radio, c'est pas arrivé comme ça tout d'un coup par par pensée magique. C'est une suite de découvertes qui ont été faites par des scientifiques à la fin, milieu, fin du 19e siècle, principalement par M. Hertz, dont on connaît maintenant les ondes hertziennes. On a donné le nom de Hertz aux ondes radio, aux radiofréquences. Et aussi d'autres personnes comme, bien sûr, Guglielmo Marconi, un Italien. Et il ne faut pas l'oublier non plus, un Français, M. Branly. Alors, la particularité que Guglielmo Marconi a eue, c'était d'être capable de mettre ensemble différentes découvertes qui ont eu lieu. Donc, malgré ce qu'on peut penser qu'à la fin du 19e siècle, les gens étaient un peu isolés, il y avait quand même des revues scientifiques. Alors, Marconi, qui était irlandais par sa mère, savait lire l'anglais, il pouvait s'informer de ce qu'il y avait dans les revues scientifiques. Et comme ça, il était au courant de un peu toutes les découvertes. Et par contre, lui, il n'est pas ingénieur, alors il se fout un peu de ce que la théorie dit. À ce moment-là, on pensait que les ondes électromagnétiques existaient, oui, mais qu'elles se déplaçaient en ligne droite et que s'il y avait un obstacle, elles seraient automatiquement arrêtées. Lui, il avait plutôt l'intuition que probablement que les ondes allaient se propager et il a fait un certain nombre d'expériences dans ce sens-là. Il faut se rappeler, par contre, qu'on est à l'époque de la télégraphie. Donc, c'est simplement des bip-bip dat-dat. C'est pas, y a pas de voix, il n'y a pas de musique encore. Et il trouve une façon, donc, d'organiser un émetteur de télégraphie et un récepteur de télégraphie sans fil et de faire des expériences en Italie sur la propriété familiale de transmission sans fil. Alors, il envoie quelqu'un à 2 kilomètres de distance de la maison environ. Et puis, pratique donc à émettre et à recevoir des signaux. Et c'est comme ça qu'il arrive à démontrer que malgré la présence d'une colline, c'est possible aux ondes électromagnétiques de se propager et d'être reçues à 2 km de distance. Avec ça, il voudrait bien, évidemment, développer son invention en Italie. C'est pas possible. Les Italiens sont plus ou moins intéressés. Donc, il s'en va plutôt en Angleterre. Comme je disais tout à l'heure, il y avait la possibilité de travailler en Angleterre, et c'est là qu'il obtient un brevet à l'âge de 22-23 ans. Donc, il est encore tout jeune et il a un brevet pour son invention. Et là, il continue à faire des expériences sur des distances de plus en plus longues de transmission sans fil. Donc, au début, c'est juste quelques kilomètres. Ensuite, il réussit à faire une transmission entre la France et l'Angleterre. Donc, vraiment, il est pas mal certain de la capacité de son invention. Il faut se rappeler, donc, on est à l'époque où la télégraphie est omniprésente, mais c'est possible de télégraphier seulement sur la terre ferme, sur les continents, parce qu'on a toujours des liens avec des fils.
Yeah, that's true. Yeah.
Alors, le problème se pose pour les navires, notamment. Qu'est-ce qu'on fait lorsque les bateaux sont éloignés des côtes? On ne peut plus communiquer avec les bateaux, donc voilà une opportunité qu'ils essaient de développer.
Yeah. There was one of these huge pushes when something happened on the ocean. That was the Titanic.
Oui, il y a eu le naufrage du Titanic. Il y a eu le naufrage aussi du Republic, qui font en sorte qu'on a su à ce moment-là l'importance de la télégraphie sans fil. Donc, une fois que les bateaux ont pu être équipés d'équipements télégraphiques, c'était possible d'envoyer sa position, d'envoyer des messages de détresse aux autres navires qui étaient aux alentours.
That was pretty much what radio was thought to accomplish at the beginning. It was not even about broadcasting.
Non, puis encore là, on était simplement sur la question de la télégraphie.
Yeah.
Alors, et ça, c'est arrivé, donc les naufrages dont on parle, c'est vers 1910, le Titanic en 1912. Avant ça, Marconi, après avoir expérimenté la transmission au-dessus de la Manche, décide de faire une transmission transatlantique. Mm. Au départ, il voulait le faire entre Angleterre et Cape Cod, aux États-Unis. Malheureusement, son équipement est détruit, tout ça. Donc, il décide de s'en venir à Signal Hill, à Terre-Neuve. Terre-Neuve, à ce moment-là, ne fait pas encore partie du Canada, mais c'est quand même une bonne distance de l'Angleterre, plus de 3000 km. Et là, il n'a pas les moyens de construire des antennes réceptrices, mais il utilise des cerfs-volants pour faire monter son antenne et capter les signaux qui sont transmis par son équipe qui est en Angleterre. Donc, c'est là où on est en décembre 1901, où on prouve là, la capacité d'envoyer des signaux d'une côte à l'autre, finalement, de l'Angleterre à Terre-Neuve.
It was quite a breakthrough. I mean, what I love with this history is that there's basically no borders. There, it's so international. There are so many different nations involved. But what was exactly the part that Canadian scientists do for the development of radio?
Comme je disais, les scientifiques de l'époque étaient toujours au courant, se tenaient au courant de ce qu'un faisait, de ce que l'autre faisait. Marconi, malgré son invention, qui était quand même très phénoménale, restait limité avec la télégraphie, donc les points, les traits, bip, bip, tot, tot. Mais d'autres voulaient essayer de communiquer de la voix, de la musique. Et pour ça, ça prenait une autre technologie. Et là, c'est un Canadien, Reginald Aubrey Fessenden, qui, le premier, en 1901, réussit à faire ce genre de transmission-là en utilisant une technologie différente de celle de Marconi. Mais cette expérience-là, bon, lui, il a raconté qu'il l'a réussi, mais ça n'a jamais été documenté ou reconnu par des gens de l'externe. Et en 1906, par contre, la veille de Noël, il réussit à communiquer avec les navires qui sont sur la côte est américaine. Monsieur mm-hmm. Fessenden travaille pour une organisation américaine de météorologie. Et il réussit donc à communiquer ses voeux de Noël, à jouer de la musique même, pour que les navires qui croisent le long de la côte est américaine puissent les entendre. Il faut comprendre aussi que même si Fessenden utilise une technologie qui est vraiment différente de celle de Marconi pour transmettre pour l'émission, pour la réception, on peut très bien capter aussi bien la télégraphie que la radiophonie avec le même équipement. Donc, les bateaux qui étaient équipés pour recevoir la télégraphie peuvent aussi capter la voix et la musique. Et ça doit être toute une surprise pour les opérateurs de télégraphie à bord des navires.
Yeah, I can imagine that.
D'entendre tout d'un coup quelqu'un qui joue du violon et puis qui leur lit des extraits de yeah. la Bible.
Good.
D'autres personnes, il faut se remettre aussi dans la situation où Montréal, à ce moment-là, est vraiment la porte d'entrée du continent nord-américain. Il y a bien sûr les ports sur la côte atlantique, New York, Boston,
yeah.
mais le seul port intérieur, ou le port intérieur le plus éloigné, c'est Montréal. Alors, les navires vont remonter le fleuve et, évidemment, communiquer leur position, demander de l'information météo, etc., tout le long de leur déplacement. Et donc, tout le long de la vallée du Saint-Laurent, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par les communications maritimes. Et la plupart des séminaires, la plupart des anciens collèges privés, en quelque sorte, donnent des cours de télégraphie, donnent des cours comment construire des récepteurs. Et il y a vraiment comme un noyau, en quelque sorte, d'opérateurs qualifiés dans la vallée du Saint-Laurent. À l'Université Laval à Québec, il y a aussi mm-hmm. deux scientifiques qui font des expériences de ce côté-là. Le Collège Sainte-Marie à Montréal est super bien équipé en termes de radiocommunication, de télégraphie sans fil. Et il y a même un abbé de la région de Nicolet qui, lui, développe un orgue électronique pouvant transmettre directement la musique sur des ondes radio. Donc, c'est quelque chose de tout à fait différent. Il n'y a pas de microphone. La modulation de la musique est transmise directement par ondes radio. Donc, c'est l'orgue de M. Desilets. Et ça, c'est documenté. On retrouve ça dans les revues là, des années 1910-1912.
But we are still not in the time of real radio programming or real radio broadcasting. It takes a long time, doesn't it?
Ça prend, oui, du temps. Et ça prend aussi deux autres inventions. Enfin, une invention en deux volets, c'est l'invention du tube à vide qui permet une amplification des signaux. Donc, là, c'est un Britannique, M. Fleming, qui développe la lampe à vide initialement, puis Lee DeForest, un Américain, qui va la modifier en quelque sorte en ajoutant... Donc, dans la lampe de Fleming, il y a deux éléments, deux électrodes, et DeForest va ajouter une troisième électrode qui donne vraiment toute la capacité de réguler le niveau d'amplification qu'on veut avoir. Donc, c'est Fleming et DeForest qui sont deux inventeurs majeurs dans ce domaine-là.
Yeah, how I understand... At that moment, we could have started, however, it did not, and it did not, why not?
It did not, parce que est survenue la Première Guerre mondiale, donc 1914, la télégraphie sans fil, ce qu'on appelait encore à ce moment-là la radiophonie ou le radiotéléphone sans fil, donc, étaient considérés par les gouvernements comme d'équipements stratégiques. Donc, quand la guerre éclate, on interdit à tous les civils de posséder de l'équipement de télégraphie sans fil. On leur ordonne même de détruire leur matériel. Donc, il n'est pas question même de juste écouter. Là. On doit absolument fermer tous les équipements, les défaire, les démonter pendant toute la durée de la guerre, sauf pour Marconi, au Canada, Marconi qui a un contrat d'exclusivité avec l'armée canadienne. Donc, les gens partent à la guerre avec de l'équipement télégraphique. Et à la fin de 1918, probablement qu'ils reviennent avec l'équipement de radiotéléphonie, mm-hmm. parce que la guerre a été un vecteur, en quelque sorte, de progrès du côté des communications.
OK. Somehow I find our choice of music not really suitable because it's shit on the radio. With not starting before the First World War, we are... with shit on the radio.
You like me till you hear my shit on the radio. Well, I hate to say, but I've been going solo. You like me till you hear my shit on the radio. But now I'm just a machine for you, oh no. You like me till you see me on your TV. Well, if you're so low below, then why you watching? You say good things come to those who wait. I've been waiting a long time for it. I remember the days when I was so low.